Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Plusieurs personnes ont été tuées dans l'est de la République démocratique du Congo lors d'une attaque attribuée aux forces démocratiques alliées, les ADF, mardi soir contre la ville de Beni dans le nord Kivu. Les ADF ont lancé une attaque simultanée contre des civils à Ocha, à 30 km au nord de Beni. Cette attaque aurait fait encore plus de victimes qu'à Beni depuis l'offensive de l'armée congolaise le 30 octobre contre la milice. Les représailles attribuées aux ADF à l'encontre de civils ont fait 54 morts avant les violences de la nuit dernière, dont le bilan exact reste à établir. La population a manifesté sa colère aujourd'hui en prenant possible, entre autres, la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, sur place. Et toujours dans l'est de la République démocratique du Congo, un milicien a été condamné hier à la perpétuité pour de nombreux viols et meurtres en 2018. La fondation Panzi du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, était partie civile à ce procès.
Frédéric Massoudi Alimassi, dit Coco di Coco, a été reconnu coupable des crimes contre l'humanité par viol, empoisonnement, torture, meurtre, esclavage sexuel, disparition forcée, a indiqué le président d'un tribunal militaire à Bukavu. Il est le chef des Mai Mai Raia Mutomboki, l'une des dizaines de milices armées qui terrorisent les civils dans les deux Kivu depuis 25 ans. Deux autres miliciens ont été condamnés à 15 et 20 ans de prison. Deux prévenus ont été acquittés. Nous irons en appel à la cour militaire du Sud Kivu, a déclaré l'une des avocates des prévenus, Maître Esther Bachougui. Dans la nuit du 8 au 9 février 2018, Massoudi Alimassi et ses miliciens ont fait irruption dans les villages de Kabiko-Kole, dans les territoires de Shabunda. Ils ont pris en otage plus d'une centaine de femmes pour les violer l'une après l'autre, affirme la fondation Panzi du docteur Mukwege. Le procès a été ouvert le 12 septembre, moins de deux ans après les fêtes, dans une région où de nombreuses ONG locales et étrangères tentent de lutter contre l'impunité.
Les États-Unis ont appelé hier à un vrai dialogue et un transfert de pouvoir vers les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. L'administration américaine estime que la réponse militaire privilégiée par le gouvernement de Yaoundé ne fait que renforcer les séparatistes. Les précisions, Jacques Aristide.
Lors d'une audition parlementaire à Washington hier, le secrétaire d'État américain adjoint aux affaires africaines, Tibor Nage, a déclaré que les conseillers du président camerounais, Paul Biya, lui faisaient miroiter une victoire militaire. Pour le diplomate américain, la vérité c'est qu'il n'y aura pas de victoire militaire, dit-il, au conflit qui oppose les indépendantistes anglophones à l'armée. Chaque jour, davantage de Camerounais qui étaient probablement au départ des Camerounais très loyalistes commencent à se dire que la sécession est peut-être la bonne solution, a-t-il déploré. Tibor Nage a également relativisé le succès du Grand Dialogue National tenu début octobre par Yaoundé pour tenter de résoudre la crise marquée par le boycott des principaux groupes indépendantistes. Il doit y avoir un vrai dialogue et il doit y avoir un transfert de pouvoir vers ces régions. Il faut quelque chose qui ait suffisamment d'intérêt pour ceux qui sont encore dans le camp des modérés, plaide-t-il. Le conflit anglophone dans ce pays majoritairement francophone a fait plus de 3000 victimes en deux ans.
En Éthiopie, les membres de l'ethnie Sidama votent pour leur autonomie. Les opérations ont débuté dans le calme ce matin à l'occasion du référendum de l'ethnie Sidama qui doit se prononcer sur la création de sa propre région au sein de l'État fédéral éthiopien. Quelques 2,3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes et le scrutin mobilise la population de la capitale régionale Hawassa, à en juger selon l'AFP par les longues files d'attente qui se sont formées à l'ouverture des bureaux de vote ce matin à 6h heure locale. Le Burkina Faso est désormais entièrement déconseillé, sauf raison impérative ou formellement déconseillé par le ministère français des Affaires étrangères. Ce pays, jadis prisé par les touristes, subit depuis 2015 des attaques djihadistes récurrentes. Yacouba Ouedraogo.
Le Quai d'Orsay a actualisé sa carte de conseil aux Français qui veulent se rendre au Burkina. La zone rouge formellement déconseillée a été étendue à tout le nord, l'est et les frontières ouest. Le reste du pays est une zone rouge, c'est-à-dire déconseillée sauf raison impérative. Jusqu'à récemment, le centre du Burkina et la capitale Ouagadougou étaient en jaune qui appelait à la vigilance renforcée. Les attaques attribuées à des groupes djihadistes ont fait près de 700 morts depuis début 2015 et quelques 500 000 déplacés internes et réfugiés. La détérioration sécuritaire au Sahel est très préoccupante. L'épicentre de l'insécurité était auparavant au Mali. Aujourd'hui, le Burkina Faso est au cœur du conflit, a estimé hier Patrick Youssef, directeur adjoint du CICR pour l'Afrique, lors d'une conférence de presse au Forum de Dakar sur les questions de sécurité.
Merci Yacouba. Quelques jours de la présidentielle du 24 novembre, la Guinée-Bissau vit au rythme de cette élection, alors que la population est incitée à voter par les différents partis dans les taxis, moyens de transport privilégiés, les Bissau-Guinéens discutent politique. Reportage de notre correspondante Darly Kaling Lopi.
Zé, 25 ans, est chauffeur de taxi dans la capitale de Guinée-Bissau, le transport privilégié des citadins. Au rouge et à l'heure encore juvénile, Fatou Camara étudie à l'université Augustine Onetou. Pour elle, la priorité, c'est l'éducation.
Je voudrais que le futur président résolve la crise et améliore nos conditions d'études et aussi l'hôpital. Nos frères et sœurs ont fait des études, ont été formés, mais ne trouvent pas de travail.
À Bissau, on partage son taxi avec les autres clients. Fatou continue sa route avec ses coups d'enfa. Le quadragénaire s'engouffre dans la voiture. Fin d'une journée de travail et chemise toujours impeccable. La présidentielle, lui aussi, y pense.
Il y a beaucoup de problèmes. La population est fatiguée. Je voudrais que le futur président améliore la santé, l'éducation et l'accès à l'eau courante. Il n'y a pas d'électricité, pas d'école, rien à Guinée-Bissau.
Le chauffeur de taxi poursuit sa route. À bord de sa voiture blanche et bleue, lui aussi pointe du doigt le manque d'infrastructures.
S'il y avait beaucoup de routes goudronnées, les gens ne seraient pas obligés d'emprunter tous la même voie. Cette voie, c'est celle passant par le marché de Bandé en plein cœur de Bissau.
Zé prend un nouveau client. Son coup baldé rentre chez lui, il est commerçant.
Vous savez, la Guinée-Bissau a de nombreuses richesses comme les noix de cajou, les mangues, les agrumes, mais on manque de formation. Rien n'est fait pour transformer nos produits bruts.
Pour Sankou Baldé, l'évolution de la Guinée-Bissau passera forcément par l'éducation de la jeunesse. Et les 12 candidats à la présidentielle du 24 novembre prochain l'ont bien compris. Tous en ont fait un thème de campagne. Tariq Alinglopi à Bissau pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le pape François est arrivé aujourd'hui en Thaïlande, première étape d'un voyage de 7 jours en Asie, durant lequel il se rendra également au Japon, une première en près de 40 ans. La communauté catholique ne représente qu'une minorité de moins de 2% de la population thaïlandaise, à majorité bouddhiste. Le pape François est le premier chef de l'Église catholique à se rendre en Thaïlande depuis Jean-Paul II en 1984. Le Sénat américain a adopté hier à l'unanimité un texte soutenant les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong face à Pékin et menaçant de suspendre le statut économique spécial accordé par Washington à l'ancienne colonie britannique. Les sénateurs ont également approuvé une mesure qui interdirait la vente à la police hongkongaise de gaz lacrymogène, balles en caoutchouc et autres équipements destinés à réprimer les manifestations. Pékin a réagi avec colère à cette adoption, avertissant qu'il prendrait des mesures de représailles si le texte devait être adopté définitivement. À moins de 3 mois du premier vote de la primaire démocrate, la pression s'accroît sur les prétendants à la Maison-Blanche qui s'affronteront ce soir lors d'un débat télévisé avec le trio de tête Joe Biden, Elizabeth Warren et Bernie Sanders, menacés par le jeune maire Pete Buttigieg. 18 candidats sont toujours en lice avec l'arrivée toute récente de l'ex-gouverneur Deval Patrick, tandis qu'un autre grand nom pourrait encore se lancer très tardivement, bouleversant potentiellement la course, le milliardaire Michael Bloomberg. Ces deux derniers ne seront pas sur le tableau du 5e débat démocrate ce soir, organisé à Atlanta, en Géorgie, où seuls 10 candidats ont été sélectionnés. Et puis poursuite à Washington de l'enquête sur une éventuelle procédure de destitution contre le président Donald Trump. Les enquêteurs doivent entendre aujourd'hui l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, Gordon Sondland, qui s'est révélé être un acteur clé de cette affaire ukrainienne. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque pour un nouveau journal. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.